Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Studio 808, la troisième et la dernière de cette année. On est avec Adrien. Comment ça va, Adrien ?
Eh ben ça va tranquille, et toi ? À l'aise ?
Bah ça va, hein, c'est les partiels en ce moment, c'est dur, on s'excuse du retard. Mais pour s'excuser, on a une troisième invitée. Oa, comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ah là là, incroyable, une nouveauté un peu, ça fait du bien parce que là on était tous les deux avec Adrien à chaque fois.
Tous les deux dans la cave, tous les deux là ça va faire un peu de compagnie.
Dans la cave du troisième lieu.
Bon, on a pris un petit peu de retard depuis la dernière émission et on s'en excuse. Avec les jours fériés plus les partiels qui arrivaient, on a préféré prendre notre temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler justement des sorties qui sont depuis la dernière émission jusqu'à aujourd'hui. On va avoir Oa qui nous fera une chronique. Est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi ça va porter ?
La chronique, elle porte sur l'influence des cultures antillaises sur le rap.
Ok, lourd.
Ensuite, on va parler des Flammes 2024. On va faire un petit débat avec Oa et Adrien pour parler de cette deuxième édition.
Et ouais, il y a des choses à dire. Eh ben allez, c'est parti. Oa, on t'écoute pour ta chronique. Let's go.
Studio 808.
Donc, qui dit avril dit cérémonie des Flammes. Dont la deuxième édition s'est déroulée le 25 avril dernier. Donc pour faire un peu court, les Flammes, c'est une cérémonie de remise de prix qui met en lumière les acteurs des cultures populaires musicales francophones, c'est-à-dire le rap, le R&B, la pop urbaine, l'afropop, l'afrobeat, le chata et bien plus. Mais avant de faire un récapitulatif de la cérémonie, on va faire un petit voyage aux Caraïbes. Bienvenue aux Antilles, les types sèches, les satirés sous pied. Parmi les nombreuses récompenses, on retrouve la flamme du morceau caraïbéen ou d'inspiration caraïbéenne, qui a été remporté par Kalash aux deux éditions pour Laptop en feat avec Maureen pour la première année et Doliprane pour cette année. Et cette année, les Antilles ont bien été représentées aux Flammes avec la performance de Maureen et de Fanny J. Là, je veux pas de toi, je t'en slip. Tiffy a toujours un flic. Bubble and Gal et Matic. Vous, les gars, vous écoutez un peu de rap entier ?
Franchement, alors un peu, ça va vraiment être un peu Kalash, Maureen, le gros du gros. Mais j'espère que tu vas pouvoir nous présenter des gens un peu moins connus pour que je sois un peu plus à la mode là-dessus.
Ouais, bah je suis totalement pareil, je vais pas mentir. Kalash, j'ai eu un petit peu ma période justement quand il avait sorti Tombolo, je crois que c'était.
Ouais,
Tombolo, j'avais bien kiffé. Et puis aussi un petit peu Meryl, mais je peux pas dire que je m'y connais énormément. C'est pour ça que j'ai bien envie d'écouter ce que tu vas nous dire dessus.
Ok, bon, on va faire un petit point avant tout pour préciser. Les Antilles, c'est un archipel réparti entre la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique et l'océan Atlantique. Ici, je vais vous parler des Antilles francophones qui sont composées des DROM, comme la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi d'Haïti, qui est un État indépendant. En effet, les cultures caribéennes se popularisent énormément en métropole ces derniers temps. Ces cultures entretiennent un lien très étroit avec la culture hip-hop, de par leur proximité à la fois historique, mais aussi géographique. Je me suis donc demandé comment les cultures antillaises ont influencé le rap local, mais aussi métropolitain. Pour cette chronique, j'ai décidé d'aborder le sujet assez largement en me focalisant principalement sur les genres populaires aux Antilles, et non pas les genres traditionnels, sinon on n'en finit pas, et surtout, influençant activement la culture hip-hop. Avant toute chose, je pense qu'il est important de redéfinir la culture hip-hop et le rap pour la mettre en perspective avec les cultures antillaises. Donc, le hip-hop, c'est un mouvement culturel qui est originellement une contre-culture, donc c'est-à-dire qui s'oppose à la culture dominante, puisqu'il a été créé à la fin des années 70 à New York dans le Bronx par la jeunesse afro-américaine et caraïbéenne. Le hip-hop est composé de plusieurs disciplines, le rap, le DJing, le breakdance, le graffiti et le beatbox. Le rap tire plus ses origines de culture africaine et afro-américaine, mais ça, on en reparlera peut-être dans une autre chronique. Pour faire le lien avec la francophonie et la France, le rap est arrivé en 1982 avec la tournée New York City Rap. Il a notamment été popularisé à travers l'émission Hip-Hop présentée par Ciné, en 1984. Actuellement, la France, c'est la deuxième industrie rap dans le monde, donc ce qui n'est pas négligeable. Et désormais, le hip-hop est considéré comme la culture urbaine dominante. Par rapport au hip-hop aux Antilles, je l'ai un peu évoqué, mais la communauté caraïbéenne a grandement participé à la naissance du hip-hop aux États-Unis. On retient notamment DJ Kool Herc, un DJ jamaïcain qu'on considère comme le père fondateur du hip-hop. Pourtant, le hip-hop a pris plus de temps pour arriver aux Antilles. Ça a suivi l'influence des États-Unis et de la métropole, mais ça arrivait dans les années 90. De base, le rap, c'était un des genres les moins populaires aux Antilles, et il s'est popularisé grâce à son association avec d'autres genres de musique populaire antillaise. Comme genre populaire aux Antilles, on peut par exemple commencer par le dancehall, dont fait partie le chata, le raga, le bouillon, que vous connaissez probablement. Le dancehall est apparu dans les années 40 et tire son nom des dance halls, donc littéralement les salles de danse, où des sound systems locaux jouaient des chansons jamaïcaines. Le dancehall, c'est ça. Ça peut aussi être ça. Mais aussi ça. Et associé avec du rap, ça peut donner ça. En lien avec le dancehall et également originaire de Jamaïque, le reggae, bien connu de tous, qui provient du ska et du rocksteady, est apparu dans les années 60 avec Bob Marley en personnage emblématique. Niveau francophone, ça peut donner ça. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Et comment parler de genres musicaux populaires des Antilles sans parler du zouk, qui est probablement le genre le plus connu en Europe. Le zouk est apparu à la fin des années 70 en Guadeloupe. Il a été influencé par des genres plus traditionnels comme le goka ou de rythme africain. Comme nom important, on a Kassav, qui sont considérés comme les créateurs du zouk pour l'avoir exporté des Antilles. Ça donne ça. Évidemment, on a aussi Fanny J. Il y a aussi le compa qui est souvent associé au zouk. C'est un genre d'originaire d'Haïti qui est apparu dans les années 50, qui a été également influencé par des genres musicaux traditionnels. Et on a un extrait juste ici. Donc comme on le voit, tous les genres musicaux ont des liens entre eux, que ce soit des genres traditionnels, populaires, etc. Et au niveau donc du rap entier, qui est quand même le sujet principal de cette chronique, au fil du temps, il s'est popularisé en s'associant avec ces genres populaires, qui viennent eux-mêmes de genres traditionnels. Mais la plus grande influence reste la trap qui provient d'Atlanta aux États-Unis. On a par exemple Evil P. En tout cas, le rap entier, même s'il a pris du temps avant de s'exporter en Europe, il a une grande popularité locale. Et il y a de nombreux rappeurs métropolitains qui sont originaires des Antilles mais qui n'y ont pas forcément vécu, qui l'ont inclus dans leur rap. C'est le cas de, par exemple des rappeurs un peu old school en France, type Doc Gineco, NTM, du Saiyan Supakru. Et de nos jours, le rap entier, il commence à avoir enfin la reconnaissance qu'il mérite, avec des artistes comme Meryl et Kalash qui commencent à avoir quand même une assez bonne renommée en métropole. Mais on peut également parler de Titoff, Kima. On a aussi Les Will et Deux Spies qui ont sorti un album en collaboration ensemble. Toujours Kémy salope, puisque salope qu'a fait salope. Et comme d'hab, nous toutes sorties en stick là. Nous à combien fois qu'à liquide stup là. En tout cas, le rap entier a de beaux jours devant lui, avec des têtes d'affiches qui mettent en lumière et affirment leur identité dans leur art, et qui montrent le chemin pour les prochaines générations. En tout cas, je vous recommande fortement d'aller leur donner de la force en allant un peu écouter ce qu'ils font.
Studio 808. Le jeudi 25 avril, on a pu avoir Les Flammes 2024, une édition qui était à la fois sur Twitch, à la fois sur YouTube, à la fois sur W9. On a pu regarder ça chacun de son côté et on va pouvoir enfin en discuter sur le plateau du Studio 808. Adrien, on va commencer avec le pré-show, parce que oui, il y avait un pré-show, un beau tapis rouge où toutes les stars défilent avec leurs magnifiques tenues. Qu'est-ce que t'en penses ?
J'en pense beaucoup de choses. Alors le pré-show, j'ai pas mal de trucs à dire dessus. Pas mal de choses négatives, je vais pas le cacher. Tout d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de paraître à travers ce pré-show, c'est-à-dire que les personnes, on sentait qu'elles étaient heureuses d'être là, et ça c'est très bien, mais je trouve qu'il y avait un angle extrêmement fait sur la mode, alors que justement on était dans une cérémonie rap, et que le rap n'a pas été mis à l'honneur pendant le pré-show, c'est-à-dire que chaque personne qui était interviewée, la première chose qu'on lui demandait c'était comment elle était habillée, on lui disait qu'elle était très belle. On parlera de Sally et du taf qu'elle a fait après, mais je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Évidemment, il y a quelques personnes qui ont parlé de rap. Je pense par exemple à Mehdi Maizi qui a été là justement pour parler de rap et pas de mode. Mais je trouve qu'il y avait une dimension justement où les gens voulaient se sentir dans une case, c'est-à-dire dans une case de stars bien habillées. Et c'est sûr, il y avait des gens connus, il y avait des stars pendant ce pré-show. Mais je trouve qu'il y a eu un plan beaucoup trop axé sur la mode, sur des choses que les gens qui étaient là-bas n'étaient pas, plus que sur la musique en elle-même.
Bah après, est-ce que justement c'est pas le but d'une cérémonie, ce côté tapis rouge, de se montrer? Parce que en vrai, dans toute cérémonie, que ce soit cérémonie musicale ou cinématographique, il y a ce côté, malgré tout, comment vous êtes habillé qui prévaut sur les autres. Et en soi, c'est un peu le but du tapis rouge. Mais je comprends que oui, il y a ce truc important de... C'est une cérémonie de rap, il faut mettre ça en avant. Mais je trouve que dans toutes les cérémonies, c'est un peu le truc basique de « Ah, est-ce que t'es content d'être là ? Comment t'es habillé ?» etc. Jouer déjà sur l'apparence, parce que c'est la première chose qu'on voit.
Ouais, forcément. Bah, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais justement, j'ai trouvé que là, c'était l'aspect justement « Je suis content d'être là, je suis bien habillé » était beaucoup trop mis en premier plan justement. Et que si on regarde par exemple les extraits d'interviews que Sally a fait, les trois quarts de l'interview, voire toute l'interview, portait justement sur le paraître des personnes qu'elle interviewait, c'est-à-dire la marque de ses vêtements, pourquoi tu es très belle, tu es très beau. Et j'ai trouvé que c'est justement ça, la musique en elle-même n'était pas mise assez au premier plan, alors qu'à la base c'est une cérémonie de musique et c'est pas un défilé de mode quoi.
Oui, alors après faut quand même rappeler que Sally, elle a expliqué en story le lendemain que pas elle était obligée, mais voilà, on lui a dit de faire des questions un peu comme ça, chill. Elle appelle ça glam red carpet, donc en gros un mood un peu léger où voilà, elle va parler à Ayana Kamura de façon très hey girl, oh ma vie, tu es trop belle ce soir. Donc voilà, c'est un peu différent, mais je pense que dans toutes les cérémonies, on va avoir le droit à ça.
Ouais.
Et je pense que pendant tellement d'années, il n'y a pas eu de cérémonie pour le rap que indirectement, t'as envie de copier un peu les autres, enfin de montrer que toi aussi t'es capable de faire ça, tu vois. Et de toi aussi t'es capable de ramener des stars avec des tenues de luxe.
Bah, encore une fois, ouais, je suis en partie d'accord sur ce que tu viens de dire, mais moi je trouvais justement que cette légèreté qu'on a imposée à Sally, je trouve qu'à des moments, et même à beaucoup de moments, cette légèreté, ça devenait quelque chose de niais. Et je trouvais justement que c'était quelque chose de dommage, parce que comme tu dis, il y a eu très peu de cérémonies rap, là c'est la deuxième en France, et pour justement récompenser les acteurs de cette culture, faire passer en premier plan justement un côté de mode, un côté niais qui va être appuyé justement par les présentateurs et les présentatrices pendant le pré-show, je trouvais ça dommage.
Ouais, après voilà, ce côté niais, on va le ressentir aussi dans la cérémonie, on va en parler, mais
forcément.
On peut aussi souligner, il y a eu quelques problèmes techniques dans le pré-show, comme d'habitude, il y en aura quand même moins que la première édition.
Ouais, et puis pour moi ça c'est des trucs, tu vois, encore justement le côté niais, on peut en parler, mais là les problèmes techniques c'est les aléas du direct, et pour moi à ce niveau-là je pense qu'ils ont quand même géré, parce que comme tu l'as dit au début, il y avait plusieurs angles, c'est-à-dire qu'il y avait Twitch, il y avait la télé, il y avait beaucoup de choses à gérer, et je pense que les équipes techniques elles devaient avoir un bon gros boulot, et que pour leur boulot qu'elles avaient, je pense qu'elles ont plutôt bien fait les choses.
Je pense on peut pas leur empêcher, tu vois, on peut pas dire ouais ils abusent de s'habiller et tout super classe en mode de luxe et tout sur le red carpet. C'est peut-être les questions niaises qui n'étaient pas forcément adéquates à la situation. Enfin voilà, on pouvait avoir autre chose, des vraies questions,
un truc.
On peut est-ce que tu es content d'être là, avoir des questions un peu dans ce style, mais c'est vrai toujours la mode. Bon après voilà, c'est ce qui lui était demandé.
Oui, c'est ce qui
ça va plaire peut-être à un public aussi, tu vois, sur TikTok, c'est sympa de savoir il s'habillait comme ça, voilà.
Ouais, après je regardais sur Twitter en même temps parce que pendant le pré-show, je pétais un plomb pendant le début et je regardais sur Twitter et pareil, Sally, elle s'est fait vanner par exemple, elle avait posé une question à Shai si ton mec, je sais pas quoi, et
ce qui c'est qui paye.
Ouais, voilà, exactement. Je sais pas.
Ah ouais, franchement, ça, la pauvre Shai. Je sais pas ce qu'elle a pu répondre, mais
elle a répondu, c'est lui qui paye.
Ok. Bon, on va passer directement à la cérémonie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer peut-être par les points négatifs.
Ouais.
En vrai, il y en a pas mal, je pense, dans l'ambiance, enfin, dans l'idée que je trouve dans l'ambiance générale de la cérémonie. C'est vrai qu'il y avait ce côté à la fois, dès le début, on va en parler, mais donc le discours de Walidia qui a ouvert, c'était très engagé, ce qui est important.
C'est très bien. Franchement, super.
Mais du coup, ça a donné cette direction d'être très engagé pour après retourner sur un truc qui était très léger. Enfin, ça alternait beaucoup en fait entre des moments très engagés et aussi des moments très superficiels. Du coup, je trouvais que c'était un peu... Enfin, tu savais pas trop où te retrouver.
Ouais, je suis un peu d'accord. Je trouve quand même que Walidia, c'était plutôt bien, sa partie. Franchement, voilà, il parle de...
C'était beaucoup de... Ouais, de Rachida Dati, de la place de la politique dans le rap, du fait que le rap il est dépolitisé et que cette cérémonie elle est importante parce que ça permet de donner de la visibilité à leur culture.
Mmh. Voilà, moi je trouve ça bien de vanner un peu là-dessus, de montrer que voilà, on a appris de nos erreurs. Et je trouve que généralement, dans la cérémonie qu'on a pu voir, ils ont quand même appris de leurs erreurs. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Je vois, tu fais un peu la grimace. Vas-y, dis-moi tout.
Moi, ça, à ce niveau-là, je vous rejoins pas trop. Je
veux ouais, attends, faire... on parle pas du présentateur à côté, enfin, qui est après, qui s'appelle Nordine Ganso. On parle de Walidia.
C'est Walidia ou Nordine Ganso qui a fait un discours terrible sur. Mais en fait, les deux, ils ont fait un discours terrible.
Non.
Bah, ouais, mais enfin, moi, je suis d'accord sur le truc de Walidia. En fait, je trouvais ça important d'avoir ce discours-là, mais je trouve que d'entrée. Ça, enfin, j'en ai un peu parlé avec vous il y a pas longtemps, mais que ça avait un peu, pas refroidi, mais ça faisait bizarre en entrée de commencer en fait à taper sur tout le monde. Certes, c'est important hein, d'avoir ce discours-là, mais je trouvais que c'était pas forcément le meilleur moment pour le faire.
Je pense
c'est
un peu pour mettre l'ambiance aussi, ouais, tu vois, en mode début d'émission, tu vois, enfin début de cérémonie, voilà, tu veux tout le monde mettre dans le truc. En
d'accord,
mode...
justement, tu veux mettre les gens dans l'ambiance, mais franchement, surtout le début de son discours, la première partie, l'ambiance, elle était morte, franchement. Dans ce qu'il a dit, dans les blagues, ça a fait rire des gens. Mais je pense que beaucoup de gens, et j'en fais partie, tu vois, qui étaient à la fois derrière leur écran, en même temps qu'ils étaient dans la salle, ça les a carrément refroidis. Parce que les blagues, il peut faire des blagues sur justement la cérémonie d'avant avec Jack Lang, avec Dinos. Moi, je trouvais que c'était pas hyper bien amené, que c'était, j'aime pas ce mot, mais c'était un peu gênant, je trouvais. Mais au début, je trouve qu'il a fait un enchaînement de blagues limite mal placées qui faisaient rire peu de gens. Et moi, j'ai trouvé que c'était trop. Hein. Franchement, pour être honnête, j'ai pas apprécié du tout. Hein.
Moi, je trouve que t'abuses un peu quand même. Je pense après, c'est ce qu'on lui a demandé, tu vois. Dans toutes les cérémonies, il y a ça. Moi, par contre, c'est plus voilà, Nordine Ganso qui faisait du coup la suite hein, de la cérémonie. Qui, là, je trouve vraiment beaucoup trop de moments de flottement. On voit qu'il pataugeait un peu. Je pense que c'était vraiment pas une bonne idée. Adrien Oa, qu'est-ce que vous en pensez?
Je trouve que l'humour était... Enfin, en fait, je le trouvais pas drôle. C'est juste que je trouve que l'humour n'était pas adapté au type d'événement que c'était.
Je suis amplement d'accord avec toi, là.
Parce que ça fait un peu humour de tweetos. Enfin, moi, je trouve ça très drôle en dehors. Mais là, du coup, c'était pas un public très réceptif à ce genre de blague.
Ouais, exactement, donc, ça exactement. C'est comme tu dis, il avait un humour de tweetos, sauf que là, le tweetos, il était devant une salle remplie des acteurs de la musique qui étaient du coup un public pas forcément réceptif justement à ce qu'il a dit. Et juste pour finir, après avoir vu les deux cérémonies, moi je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'humoristes justement dans la salle au début, avant les shows? Parce que franchement, les deux fois où ils sont passés, moi j'ai pas trouvé ça drôle, je suis désolé.
Moi je pense que, ouais non, c'est pas une bonne idée les humoristes. Je pense qu'un driver, justement, mériterait beaucoup plus sa place. Ou même quelqu'un qui est apprécié par les acteurs de cette industrie, par même les rappeurs, moi, les rappeuses, serait beaucoup mieux.
Tu vois, typiquement, un mec comme un Raphaël Dacruz ou un Mehdi Maizi, pour moi, ça passerait bien mieux, justement, voilà. En tant que host. Parce que
Colombien, même.
Ouais, exactement. Un mec qui est connu des gens de la culture, à la fois dans son centre, c'est-à-dire les gens un peu de l'ombre, en même temps, des gens qui... connaissent les médias, on pense, Mehdi Maizi, comme tu dis, colombien, c'est des gens qui ont des émissions, qui ont des chaînes YouTube, qui font à des moments des lives, qui participent à des émissions et qui peuvent justement être en capacité de host un événement comme ça. Et d'ailleurs, tu as parlé de driver, on en parlera après dans les points positifs, mais driver, quel homme, quel homme, surtout à cette cérémonie d'ailleurs.
Donc il y a eu Nordine Ganso, il y a eu Walidia, mais il y a eu aussi Skulush et Hamza. Qui était là, pareil, un peu pour jouer les humoristes. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que, pour toi, ils ont apporté quelque chose?
Bah, en fait, ça remet en question toute la place de l'humour dans cette cérémonie. C'est que c'est quelque chose de basique de mettre des humoristes dans une cérémonie, sauf qu'en général, ça se fait dans des cérémonies de cinéma où, en fait, c'est normal. Enfin, c'est pas choquant qu'il y ait quelqu'un qui est un humoriste vu que c'est autour de l'acting. Là, je trouve que ça apportait pas tant de choses que ça, et je sais que ça a été vachement critiqué sur les réseaux parce que en soi c'était un peu gênant à des moments. Moi ça m'a pas trop dérangé personnellement, mais je trouvais pas ça nécessaire. Je trouvais que les interventions elles étaient là mais qu'elles servaient pas en fait.
Franchement, il y a un moment où il va voir un manager d'artiste,
Hamza,
où il lui pose des questions un peu gênantes. Enfin, c'est
vraiment pourquoi. J'avais mal pour le manager. Je sais vraiment... plus. Je sais plus quel artiste il manage, mais force à lui. Hein.
Ouais, voilà.
J'aurais pas aimé être à sa place à ce moment-là.
C'était juste très très lent. Et moi, qui n'aime pas du tout les moments de gênance, là, ça t'attrape au cœur. T'es en mode, ok, d'accord. En plus, je pense que quand t'es dans la salle, t'as moins ce truc. Tu vois, tu discutes avec tes potes et tout. Je pense, t'as moins ce truc. Alors que quand t'es devant l'écran, t'es obligé de voir ça. Et c'est vrai que je pense que juste, ils n'étaient pas à leur place. En fait. Voilà, Skulush, c'est quelqu'un qui est souvent sur Bouscapé dans ce genre de médias.
Qui est dans Bouscapé, ouais.
Voilà, qui est dans Bouscapé. Donc forcément, c'est pas surprenant non plus de les voir ici. Mais c'est justement, je pense, ils ont voulu faire un peu profiter tout le monde, quoi, de cette fête. Mais je pense que pour ce rôle, moyen.
Ouais, mais après, tu vois, par exemple, Skulush et Hamza, c'est des gens qui sont dans la culture, comme tu dis, par exemple, Skulush avec Bouscapé. Et que du coup, c'est normal, en vrai, qu'ils aient une place, comme t'as dit, Owa, pas forcément une place très importante, à des moments même voire inutiles, mais je trouve que c'est pas une mauvaise chose qu'ils étaient là. Par exemple, je pense au moment où Skulush, pendant le pré-show, offrait des cadeaux.
Voilà, ouais, là c'était bien.
Offrait des cadeaux au public,
je trouve, elle avait
ça
bien
animait
sa place.
Un petit peu. Après, il y avait des changements de caméra qui n'étaient pas très fluides, ça on l'en revue pas forcément, justement, comme on a dit, à l'IA du direct. Mais pour redire aussi pour Hamza, ouais, le moment avec l'artiste, c'était chaud. Avec le manager, pardon, c'était chaud.
Et même, je trouve, les hosts Twitch et YouTube, Océane, bon, franchement, est-ce qu'elle a vraiment sa place dans une cérémonie de rap ? À part être la femme de Le Motif, je ne le vois pas trop. Enfin, je comprends pas trop. Je sais pas ce que t'en penses, mais...
Bah, Océane, comme tu... Ouais, Océane, c'est la compagne du Motif. Après, c'est pas non plus que la compagne du Motif, c'est-à-dire qu'elle a une grosse communauté qui la suit. C'est pour ça que, justement, ça pouvait peut-être ramener des auditeurs,
oui,
pas forcément...
en rapport avec le rap.
Ouais, mais justement, peut-être que ça pouvait ramener des auditeurs pas forcément cantonnés, ouais, tu vois, avec ce genre de musique. Et vu qu'elle a quand même une grosse audience, ça a peut-être justement ramené des nouvelles personnes. Mais je suis d'accord avec toi, Océane en elle-même, c'est pas la meilleure personne, justement, pour présenter une cérémonie type Les Flammes.
Ouais, après, je pense que c'était le but de trouver quelqu'un qui ait le plus d'influence possible et qui peut se rapprocher au plus près de cet univers. Et ouais, Océane ne faisait mieux. Océane semble plus logique qu'une Léna Situation, par exemple. Je pense que c'était le but de trouver quelqu'un qui était influent et qui puisse ramener sa communauté, mais qui soit pas hyper loin. Mais c'est vrai que là, le lien reste surtout que c'est la campagne du Motif. Et voilà. Enfin, ça fait qu'elle connaît les backstage, mais elle n'est pas dans ce monde non plus. Quoi.
Et puis, l'année dernière, par exemple, il y avait eu Grim Cujo et Maxime Biaggi. Eux, je trouvais, typiquement, ils ne sont pas dans la sphère rap à part entière, mais on sait, des deux personnes, ils l'ont souvent dit, justement, qu'ils écoutent beaucoup de rap. Il y a carrément Maxime Biaggi qui avait fait un son, avec Oudi, avec Pendrez, Renard et Chronomusic. Donc, justement, ils connaissent un petit peu cette sphère-là. Et je trouvais que l'année dernière, ils avaient fait un super bon boulot. Je ne sais pas si vous avez... Moi, j'étais sur leur live l'année dernière. Ouais. Et justement, après qu'un artiste remportait un prix, ils allaient l'interviewer en backstage. Et je trouvais que, justement, ils faisaient un super boulot.
Là, il y avait aussi DVM qui était là. Pareil. En fait, disons que je n'ai pas regardé de leur point de vue live comment ça donnait, juste j'ai vu des extraits. Franchement, les seuls que j'ai vus, ça m'a pas trop plu. J'ai vu un extrait d'un mec du DVM, je me rappelle plus comment il s'appelle, en gros, qui remarque Bianca Costa, donc une rappeuse qui est nominée. En gros, il la voit de derrière, il mate son derrière, mais pendant littéralement 10 secondes, hein, bien gênant, il fait « Oh, Bianca Costa !» Et franchement, tu dis, mais ça fait un peu honte, je trouve, quand même, au rap. L'utilité est vraiment juste absente. Voilà, je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave, on va parler d'autres choses, on va parler des performances. Là, quand même, c'était bien mieux. Oh, quelle performance t'as un peu marqué ? Vas-y, parle-moi-en.
Moi, j'ai bien aimé à peu près toutes les performances. J'en ai pas des grands souvenirs parce qu'il y en a quand même eu beaucoup. Il y en a une dizaine, il me semble.
Alors, je vais te dire, il y a eu 14 performances.
Ouais, il y en a une quinzaine. Moi, j'avais beaucoup aimé celle de Luigi. Bah, Maureen et Fanny J, parce qu'il y a ce côté de on donne de la visibilité aux Antilles, donc c'était cool. Il y en a qui m'ont moins marqué. J'ai beaucoup aimé, du coup, aussi celle de Medine.
Bien évidemment, Medine qui, on rappelle, a affiché le nom, je crois, il me semble, des enfants morts à Gaza. Il y en avait plus de 35 000. Ils ne pouvaient pas tous les afficher. Donc franchement, super bien.
Beau geste.
Beau geste. Adrien, toi, est-ce qu'il y a des performances qui t'ont plus ou moins...
Alors ouais, il y en a. Franchement, au niveau des performances, ça, c'est un gros point positif, je trouve, de cette cérémonie qui a eu lieu cette année. Parce que déjà, il n'y a eu aucune performance ratée, je pense, en tout cas.
Ouais.
Première cérémonie, pour toi, il y a des performances qui sont ratées ?
Pour moi, il n'y avait pas forcément des performances ratées, mais je trouve que les performances étaient meilleures dans la deuxième cérémonie que dans la première.
Ah oui, large.
Perso, j'ai beaucoup apprécié celle de Luigi, comme tu as dit.
Très fort.
Forcément, il y a aussi Shai qui est une très très bonne...
À chaque fois, elle met une scéno de fou furieux. Et en plus, là, voilà, elle a pensé, hein, parce qu'elle allait justement, elle a annoncé son zénith juste après. Il me semble que ça a été complet hyper rapidement, le lendemain littéralement. Donc c'est super bien pensé. On rappelle en plus, il me semble, la première cérémonie c'était ça, je sais pas si c'est encore ça, mais que c'est eux qui financent, s'ils doivent rajouter de la chorégraphie, c'est les rappeurs, rappeuses qui financent. Donc c'est grave cool qu'à chaque fois, voilà, elle rigole pas. Même Aya, hein, Aya, elle a pas rigolé, elle a ramené des chorégraphes.
C'est vrai qu'Aya a fait une super bonne paire. Enfin,
Aya est un peu la reine de la cérémonie, je trouve, quand même.
Ah oui, c'est sûr.
Pour l'entrée, elle est très forte.
C'est sûr, c'est sûr.
Là, c'est vraiment très marquant. Un super medley. Il y a eu plusieurs medleys. Hein. Il y a eu aussi Franglish, il me semble, qui a fait un medley.
La Fouine, franchement, évidemment. Je pense que beaucoup de gens, en particularité des gens plus forcément très jeunes, peut-être, ont beaucoup kiffé. Et même nous, les plus jeunes qui n'avaient pas forcément un âge d'écouter du rap à l'époque où La Fouine était en place, même s'il l'est toujours, je veux dire, à l'époque où La Fouine était plus jeune et qu'il était connu à ce moment-là, je pense que ça a fait kiffer presque tout le monde. Hein.
Ah oui, oui. Rien qu'on voit que là, justement, le public qui était de base des acteurs, voilà, qui souriaient pas trop, enfin, qui faisaient pas trop de vannes.
Là, ça s'est lâché.
Ouais. On entendait dans le public, donc c'est quand même grave cool, une grosse surprise. Mmh. Et depuis, La Fouine, il explose tout, mais quand même, voilà, hein, ses streams ont augmenté de 152%. On entend beaucoup plus parler. Booba,
réconciliation, voilà.
Réconciliation. Alors là,
sur le lendemain, il était chez DVM justement, La Fouine, et il a annoncé, il a fait un son avec Lafèvre.
Voilà,
si
c'est ça.
Vu.
Oui, j'ai vu.
En plus, récemment, il y a quelques jours, il a fait une story où il était en studio avec Bushy. Bushy, on en avait parlé.
Ouais. Il me semble même qu'on a vu un extrait. Il aurait probablement fait un son en une heure, c'est le.
Oui, avec Bouscapé. Ouais. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Skulush était là.
Voilà, oui, j'ai vu. Donc, c'est bien réussi pour La Fouine. C'est une super belle surprise pour les flammes.
D'ailleurs, si j'ai un petit truc à dire, pardon, par rapport justement à La Fouine et Bouscapé, ça me fait rire parce qu'il y a moins d'un an, La Fouine avait balancé une vidéo où il insultait tout Bouscapé. Et aujourd'hui, qu'il fasse une petite vidéo, un son en une heure, ça m'a fait sourire. C'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est bien s'ils sont réconciliés. Mais vu la vidéo, la bombe qu'il leur avait envoyée la dernière fois, ça m'a un peu étonné quand même.
Et puis je pense, faut être malin. Pour La Fouine, c'est une super opportunité pour son prochain album. Mmh. On espère que pour lui, ça va marcher, qu'il va avoir des belles surprises. Là, le fait qu'il y ait une réconciliation avec un peu tout le monde, hein, parce que le rap français et La Fouine, ça a toujours pas été. Il y a des moments, c'était un peu compliqué. Et voir cette symbiose qu'il y avait dans la salle où tout le monde se mettait debout, c'était quand même très beau, je trouve.
Mais c'était beau à voir.
Même quand t'es pas fan de La Fouine, tu ressens quand même un truc. En performance, qui était un peu dommage, mais c'était quand même cool. Il y avait Kay The Prodigy. Donc là, on n'entendait pas trop ce qu'elle disait. C'était un peu dommage. Ce qui était cool, il y avait Richie Beats derrière, qui faisait les backs. C'est grave cool.
Ouais, elle a interprété Chute, qui est dans le projet de Richie Beats, pour ça qu'il était à ses côtés. On sentait qu'elle avait de l'énergie sur scène, parce qu'en même temps qu'elle rappait, elle dansait. Mais justement, avec son micro, elle parlait très vite, on ne comprenait pas tout ce qu'elle disait. Surtout qu'il y a des moments dans le son, justement, c'est des passages, il va y avoir des passages en DMV. Pour ça qu'à mon avis, faire une prestation sur scène en dansant, plus interpréter un morceau qui a des moments et en passage avec de la DMV, ça devait être super compliqué. Et c'est dommage qu'elle ait un petit peu raté, mais je pense qu'elle a fait de son mieux et que pour le défi qui était de faire ce son sur scène, je pense que. Il y a une partie où c'est quand même bien rempli.
Et surtout que quand même, dans tous les artistes qu'on a eus, on a surtout eu des grosses têtes. Et le fait d'avoir une personne qui n'a pas encore
plaisir,
de gros hits,
qui
n'a pas encore de gros hits, c'est quand même cool. On a eu aussi Merveille, qui a un gros hit TikTok et qui a justement pu profiter de faire une petite performance qui était plutôt cool.
Surtout pour Kay The Prodigy aussi, c'est que je pense que c'est... Je sais pas si c'est sa première grande scène, mais ça fait partie de ses premières grandes scènes déjà. Surtout qu'elle se prodigie, les sons qu'elle fait sont pas forcément adaptés pour la scène. Et là, vu qu'en plus elle a mis pas mal dans la choré, etc., niveau du souffle, etc., c'était compliqué. Et c'est dur en fait à performer ça correctement si t'es pas posé, parce que de base, t'es posé quand tu chantes ces sons-là.
Et forcément, comme tu l'as dit, c'est une de ses premières grosses scènes, et c'est pas n'importe quelle scène. C'est-à-dire qu'il y a une très grande partie justement de la sphère rap et de l'industrie justement qui est devant elle, avec des rappeurs, des gens de l'ombre. Et le taux de stress justement que doit avoir une artiste lors de ce passage, ça doit quand même être quelque chose de très gros. Et que justement, pour réussir à gérer tout ce qu'elle avait à gérer, forcément, c'était pas parfait, mais je trouve que le pari n'a pas été rempli.
En plus, elle est jeune aussi, il me semble. Ouais. Enfin, pas à peu près notre âge.
Elle a la vingtaine, je pense.
Ouais.
Et pour ce qui est des récompenses, on va en parler. Ouais, est-ce que tu as des choses à dire?
Moi, je tenais déjà juste à dire que on est très fiers que Favé ait gagné à la flamme de la révélation de l'année, vu qu'on l'a interviewé en début d'année. Donc, on a quand même ce mérite de dire qu'on a interviewé la flamme de la révélation masculine de l'année.
Oui, c'est vrai, ça, c'est quand
Après,
même
ça
la classe.
Après, ça va être critiqué peut-être si les gens ne sont pas satisfaits, mais c'est la classe.
C'est vraiment la classe. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément lui que je mettrais. Ouais. Je trouve que en face, il y a quand même. Et Yamé qui a absolument tout détruit, donc je pense que les deux auraient plus mérité. Alors je conçois que disons que Favé a super bien marché avec son son flashback avec Gazo qui a vraiment explosé quand même pas mal de charts. Mais il n'empêche que bah il y a que ça dans son année. Parce que dans son album sorti, qui je trouve n'était pas au niveau attendu, je comprends pas trop d'où sort cette révélation masculine. Voilà, je
après,
sais pas.
Après, il n'y avait pas vraiment d'attente derrière son album. Enfin,
non, justement, il n'y avait pas d'attente, mais...
Oui, il a pas innové, genre.
Alors oui, c'était son premier album.
Si, forcément, c'est le premier album d'un artiste, surtout comme Favé, qui était super émergent très rapidement. Si, c'était attendu.
C'était attendu, mais pas non plus comme il y a un an. Tu vois ce que je veux dire ? Il a pris le temps de le faire.
Alors, moi, je trouvais justement qu'avant la sortie de l'album, il avait fait un bon tour des médias, justement,
oui.
pour...
Oui, bien sûr.
Il avait une stratégie de com' qui était très bonne, et je trouve que l'album a pas été... a été bien accueilli parce qu'il a été porté, comme tu l'as dit, avec le feat avec Gazo. Mm-hmm. Mais je trouve que, ouais, par rapport à l'ensemble de l'album, il n'y a pas non plus des sons, par exemple, en solo qui ont très, très bien marché autant que les feats.
Bah, il n'y en a pas.
C'est vrai.
Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Les sons se ressemblent globalement tous.
Après, je pense qu'au niveau, justement, des perfs... Non, pas des perfs. Au niveau des prix qui ont été donnés, c'est compliqué de mettre tout le monde d'accord.
C'est-à-dire surtout que la moitié, c'est voté par
ouais, exactement.
Des gens comme nous.
La moitié, c'est voté par tout le monde, par tous ceux qui veulent. C'est très simple de voter. Et forcément, il y a un moment où les gens qui vont gagner, bah, il y aura une partie justement de popularité. C'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui est plus apte à connaître Favé qu'à connaître Tiff, même si Tiff est très fort et
alors,
a sorti un super projet.
Je suis bien d'accord, mais moi qui est au courant de ça, je m'attendais quand même à ce que Yamé gagne, mais haut la main. Quoi. Parce que Yamé, on entend, enfin, quand même, ça a beaucoup plus explosé que Favé. Enfin, mais... au niveau flashback, bah, quand tu compares flashback et bécane...
Yamé, justement, il a percé avec un son, et ce son ne veut pas dire qu'il a fait qu'un bon son. Je ne sais pas si vous avez écouté son projet.
Ah non, oui, bien sûr, bien sûr.
Et franchement, le projet est super bon, mais justement, Yamé, il y a ce truc qu'il a un mastodonte, mais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent que ce son bécane, tu vois. Et que forcément, je pense qu'une personne lambda qui va arriver devant les votes, qui va voir Tiff, qui va voir Favé, qui va voir Yamé, peut-être que Tiff, elle le connaît. Parle évidemment là d'une personne pas forcément dans la sphère rap.
Oui, bien
extrêmement.
Sûr.
Une personne, par exemple, Tiff, elle va peut-être le connaître ou peut-être pas, donc elle va passer. Elle va ensuite connaître Favé et Yamé. Yamé, ah, c'est le mec de TikTok qui a sorti Bécane sur la Bécane. Ah. Et ensuite, il va y avoir Favé. Favé, ok, ouais, je connais. Pourquoi ? Parce que lui non plus a pas beaucoup de sons en solo qui ont marché, mais il a plusieurs sons, par exemple, en feat. Flashback, il va y avoir Nolesh aussi qui avait bien marché. Et forcément, il va y avoir ses sons en solo d'avant, Urus et...
Mercedes.
Bref, ouais. Favé a plus de sons connus à l'heure actuelle que
Yamé, c'est sûr.
Surtout qu'Yamé, il y a eu aussi le débat de... au début, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé son Colors et qui n'aimaient pas du tout son style. Ce qui n'est pas mon cas, mais ça... Enfin, il est très populaire, mais ça a été beaucoup critiqué.
Ouais, c'est sûr que c'est une proposition, tu vois, c'est un choix. Et que forcément, pas tout le monde peut apprécier quand c'est autant tracé, tu vois. Mais moi, ça m'étonne pas que Favé gagne.
Ouais.
Si ça tenait qu'à moi, ce serait pas forcément lui qui aurait gagné.
Mais je pense que ça m'a étonné quand même énormément.
Moi, je pense que avec autant d'artistes et autant de gens qui regardent justement cette émission, tu peux pas satisfaire tout le monde. Et que c'est pas une mauvaise chose que Favé gagne. Je pense pas qu'il a volé le titre, pas du tout. Et que juste que par rapport au plus gros nombre de personnes, je pense qu'il mérite. Ouais.
Et en parlant de prix, il y a aussi la flamme de la performance. Rap. La flamme du morceau performance rap a été attribuée à Ninho avec le freestyle Level Up Volume 1. En face, il y avait 100K et Shafkat. Moi, j'avoue, je comprends pas trop. Alors, Level Up est vraiment bien, plutôt bien par rapport à justement l'album qui nous a sorti après, que j'ai trouvé vraiment les montagnes russes. Un moment, c'est bien, un moment, oui, voilà, moyen. Un moment, c'est vraiment pas mon style. 100K Gazo aussi, je trouvais ça cool, mais je trouvais trop court. Donc, pour moi, le morceau qui devait gagner, c'était Shafkat, mais de loin, parce qu'en plus, ça avait super bien marché. Donc, je n'ai pas du tout été convaincu. Encore une fois, je pense que voilà, c'est le fait que tout le monde peut voter et que bah, forcément, Ninho, le son a été beaucoup plus streamé que Shafkat. Oa, t'en penses quoi ?
Bah, en fait, j'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai écouté aucun des trois sons. Déjà, j'étais pas hyper convaincue par rapport à Ninho, mais ça, c'est plus pour des raisons de... Ninho, il est accusé d'agression sexuelle, etc. Donc moi, j'étais pas hyper dedans. Après, ça, c'est juste de mon point de vue personnel. Artistiquement, du coup, j'ai écouté aucun des trois, donc j'avais pas d'avis.
Mais moi, je pense que justement, il y a beaucoup de personnes comme Oa qui se retrouvent justement devant leur téléphone à voter. et ils se disent, bon, j'ai écouté aucun des trois. Il y a qui ? Il y a Gazo, d'accord. Il y a Fritz Corleone, il y a Nino. Je pense que, même si tu connais pas, je pense que la plupart des gens ont dit Nino.
Alors, je suis pas forcément d'accord, parce que je trouve que Gazo, avec son son 100K qui était sur l'album avec Tiakola, était le seul son rappé de l'album à part entière, presque. Et que je trouve qu'il a vraiment mis une baffe, honnêtement. J'ai trouvé son super bon. Nino aussi, son son était bon. Je l'ai pas trouvé non plus extrêmement bon. Et pour parler de Fritz Corleone, alors, je vais peut-être un petit peu me contredire par rapport à avant, mais tu vois, un Shaf 4 qui a été nominé, je trouve que c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas une bonne chose non plus, parce que, tu vois, Shaf 4, ça représente aussi un petit peu ADC et le projet entier, tu vois, de Freeze. Sauf que, dans le projet de Freeze, il y a des sons bien mieux rappés que Shaf 4, tu vois. Ils ont mis Shaf 4 à la place.
Parce qu'il est le plus connu.
Ouais.
C'est logique.
Ouais, c'est logique, mais ce que je veux dire, dans une performance de l'année, pour moi, Shaf 4 n'aurait pas dû être là, tu vois. Moi, j'aurais plus mis un L'Homme Méthode ou alors un Bill oui. Clinton, tu vois, que Shaf 4, même si, comme je l'ai encore dit, je me contredis parce qu'avant, on avait parlé de popularité et qu'il faut qu'il y ait quand même une popularité. Mais je pense que beaucoup de monde ont écouté l'album de Freeze, tu vois.
Oui,
et
bien
sûr. Il y a des sons quand même bien mieux rappés que Shaf 4, tu vois. Shaf 4, il y a 3 ou 4 fois le refrain dans le son. C'est pas un son de performance.
Oui, d'accord, mais du coup, toi, tu dirais que Nino a mieux rappé, mieux performé sur Level Up 1 que Shaf 4 avec Freeze.
Ah, pour moi, tu peux pas comparer les deux, mais à titre personnel, je pense avoir préféré Shaf 4, même si je trouve que Shaf 4, à côté d'autres morceaux de l'album, c'est bien moins bien rappé.
Là, justement, je regarde un peu toutes les récompenses. Voilà, on va un peu survoler la flamme du featuring de l'année, Meridian, de Dave et Tiakola. Moi, je trouve que c'était bien.
Ouais, très cool. Je trouve c'est, enfin, de mon avis, de mon point de vue, je trouve que c'est ceux qui méritaient le plus et que ça soit pas encore
Petit Génie.
Façon, Petit Génie, il a eu une flamme, ouais. Mais ça y est.
J'avais très peur que ce soit perso, tout Petit Génie, hein, vraiment.
Perso, j'appréciais aucun des sons qu'on a mis pour je vais le dire, Meridian, j'ai pas aimé ce son.
Et Gazo Damso,
bah, en fait, je trouvais que ce son, c'est sûr, il est bien, tu vois, il m'a eu pendant une petite semaine ou deux, mais pas plus. Tu vois ce que je veux dire ? Okay. Il y a des sons de Gazo, par exemple, en feat, ou même de Damso en feat, que je peux encore me remettre et me faire, putain, ce son, c'était quand même une baffe, tu vois. Mais là, ouais, ils ont, en plus, pour l'histoire, c'est beau, parce qu'ils avaient fait en avant-première, justement, ce son, l'année d'avant, pendant l'ouverture de la première cérémonie des flammes, et ça, c'était quelque chose de beau. Mais de là à le mettre en meilleur son de l'année... Je sais pas. Mais comme on le redit encore une fois, forcément, il y a cet aspect de faut avoir fait du bruit, faut être connu, et ce qui est normal, justement, plus il y a un grand auditoire, plus justement faut avoir impacté cet auditoire et donc être connu. Donc forcément, on peut pas forcément en parler.
Mm. Bah, d'ailleurs, rien à voir, mais j'ai trouvé ça aussi cool que Aya Nakamura, bah, elle a raflé énormément de flammes. Voilà, elle a tout gagné. Elle a surtout gagné la flamme du rayonnement international, et ça, quand même, c'est la classe. Je pense que ça vient au parfait moment avant les JO.
C'est sûr. C'est tout, je crois que c'est la première fois qu'elle s'est vraiment exprimée publiquement sur le fait qu'elle va représenter la France aux JO. Du coup, move de reine, parce que voilà, elle a pu l'affirmer. Et que la flamme a bien prouvé que c'est mérité qu'elle ait ce rôle-là, malgré le fait que ça soit débattu.
Mais en tout cas, moi, je trouve que c'était vraiment la personne à mettre en termes de rayonnement international de musique française. C'était la personne à mettre, franchement. Il n'y avait pas débat, quoi. C'est une bonne chose.
Tout pareil qu'Aya Nakamura, il y a aussi Zamdan qui a eu la flamme de l'engagement social. C'est, je trouve, une super chose.
Ouais, très belle chose, super bon passage justement de Zamdan sur scène.
La performance de Zamdan était super cool, et c'est hyper important d'avoir, enfin, de garder ce côté engagement et du coup de donner cette flamme donc à Zamdan pour SOS Méditerranée. Surtout qu'il était entouré donc d'actrices très importantes dans
l'engagement humanitaire.
Ouais, dans l'humanitaire, dans l'activisme.
Bien sûr.
Le discours d'Assa Traoré qui était très important, très pertinent.
Il y a aussi eu DJ Core qui a eu la flamme éternelle, qui a passé un mot pour ce qui se passe en ce moment au Congo, à Gaza. Donc moi, en général, je trouvais quand même que la deuxième cérémonie était quand même beaucoup plus engagée.
C'est vrai. Et je pense que ça, on peut justement le retenir en point positif. Voilà, c'est qu'il y avait un vrai engagement qui était assumé et qui a bien été fait.
Qui était important, parce que je trouve que dans le cas où ça n'aurait pas été fait, ça aurait bien posé problème, parce que justement, l'essence, la base même du rap, c'est d'être engagé.
Exactement.
Et que s'ils avaient choisi d'aller de ce côté, de ne pas s'engager politiquement, sachant que ça a été critiqué par rapport à Rachida Dati, Jacques Lang l'année dernière, ça allait encore se faire lyncher, ce qui est légitime.
Si vous deviez vraiment définir les flammes deuxième édition en un ou deux mots, vous direz quoi ?
Bon et mauvais. beau et mauvais. Franchement, tu vois, j'ai beaucoup dit du mal de cette deuxième édition et en vrai,
parce qu'on est là pour critiquer
ouais,
aussi.
Ouais, non, mais tu vois, j'ai pas envie. Moi, à la première édition, il y avait beaucoup de gens, justement, je trouvais qui avaient beaucoup parlé en mal de l'émission et j'étais pas forcément d'accord parce que je me disais, tu vois, bah, c'est la première, c'est une première, on peut, faut leur laisser le temps. Mais moi, j'étais déçu en fait de la deuxième, surtout au début, parce que je trouvais que rien n'avait été appris, en tout cas par rapport justement au pré-show, par rapport. Au host des trucs, je trouvais qu'il y avait les mêmes problèmes et les mêmes problèmes qui rendaient le truc gênant à des moments et pas agréable à regarder, tu vois, même si, vas-y, à des moments c'est une cérémonie ça peut être long. Je trouvais qu'il y avait des problèmes qui étaient exactement les mêmes entre la 1 et la 2, et ça m'a déçu, tu vois. Mais il faut aussi dire qu'il y a eu quand même des choses très bonnes. On l'a dit avec les prestations sur scène de certains artistes qui étaient vraiment super, avec, comme aussi on l'a dit, des discours engagés qui était très bien, avec le soutien à Yana Kamura, que personnellement je juge très bon, tu vois, et que c'est, je pense qu'à la fois pour elle, et à la fois justement au niveau de la culture, voir que des gens voient que bah, Yana Kamura, elle a la culture hip-hop
derrière lui
avec elle, bah, je trouve ça super bien, tu vois.
Bien sûr.
Ouais. J'ai envie de dire deux mots qui sont opposés, mais j'ai envie de dire évolution, enfin pour suivre un peu ce que tu as dit Adrien, dans il y a quand même évolution donc positive dans le truc de il y a des améliorations, que les critiques du public ont été écoutées. Mais aussi stagnation dans le fait que la cérémonie, en vrai, je l'ai trouvée un peu longue.
Beaucoup de flottements, ouais.
Ouais, il y a beaucoup de flottements.
D'ailleurs, c'est que... des flottements qui ont dû être un peu assurés par Driver. Et je trouve qu'il a fait un super bon boulot, Driver. Il a été nickel, comme d'hab.
C'est justement, je pense, l'expérience qui prime avant tout.
Ah, voilà, non, mais ça, c'est là, hein, franchement, ça se voyait. Hein. Et même dans les moments gênants, où même lui était gêné, je trouvais qu'il arrivait, tu vois, un petit peu à apaiser le truc. Et que tu vois, si on aurait mis un Hamza à la place de Driver pendant ces moments-là. Eh, franchement, j'aurais coupé ma télé. Hein,
c'est là où tu vois Nordine qui... C'était sa première cérémonie, tu vois. Il y a des choses qui se voient. C'est là où ça manque. Donc, ouais, justement, tu as dit un peu évolution pour toi. S'il y a des choses à changer dans cette cérémonie, tu changerais quoi?
Bah, toujours dans cette idée de stagnation. Par exemple, c'est un truc tout con, mais donc, en général, dans la cérémonie, le but, c'est qu'il y ait quand même un minimum de suspense qu'il n'y avait absolument pas lors de la remise des prix et que juste on annonçait les noms comme ça. Alors, c'est un petit détail. Et que souvent dans d'autres cérémonies c'est critiqué parce que parfois ils mettent 10 ans pour annoncer qui est le vainqueur. Là il y a aucun suspense. Enfin je trouve que ça manquait un peu d'engouement pour la cérémonie. Enfin ce que j'avais un peu dit avant, c'est un peu déséquilibré dans le côté qu'on met des humoristes qui ont fait beaucoup de blagues pour essayer d'instaurer une ambiance. Or je trouve que la culture, enfin ces cultures urbaines là, la culture rap, la culture hip hop, c'est quelque chose qui s'invente pas vraiment, qui se fait un peu naturellement. Et c'est ce côté à la fois très cérémonie, très formel, mais à côté c'est une cérémonie de culture urbaine. Du coup on veut rajouter des trucs qui fait que je trouvais que ça a manqué d'ambiance à des moments, mais à des moments c'était too much.
Là où je te rejoins pas forcément, c'est sur au niveau de l'engouement par rapport au prix, je te rejoins pas forcément parce que qu'est-ce que justement tu voudrais faire en plus pour rajouter de l'engouement?
Bah, c'est juste un détail, mais c'est juste de t'ouvres le papier, t'attends un minimum et tu dis le nom.
Bah, c'est, techniquement, c'est ce qu'ils faisaient un petit peu, non?
Ils ont vraiment juste ouvert et ils l'ont dit. Je trouvais que ça allait vite et que ça se déroulait, quoi.
Ouais. Après, il y avait beaucoup de prix justement à donner. Je pense qu'au niveau timing, à mon avis, les mecs ils devaient être pressés, tu vois.
Ouais, après ça dure quand même 3 heures et je pense surtout la différence c'est que tu vois par exemple dans les Oscars c'est des jurys qui votent donc ça a quand même un peu plus de suspense à avoir que là quand tu sais que forcément il y a la moitié c'est des personnes lambda qui peuvent voter.
Ouais, mais tu te doutes c'est pas une mauvaise chose, tu vois.
Oui, non mais bien sûr, mais tu te doutes un peu plus de qui va gagner la récompense.
C'est sûr.
Moi je pense vraiment s'il y a une chose à changer pour l'année prochaine, c'est en général toute la présentation. Tout ce qui est, voilà, qui on va mettre en présentateur.
Au niveau du host, tu veux dire?
Voilà, au niveau de tous les hosts qu'il y avait. Je pense, voilà, il doit y avoir un changement radical de DA. Plus, peut-être un peu plus sérieux, un peu plus réputé, enfin, des personnes un peu plus réputées dans l'industrie. On met moins d'humoristes, si ce n'est quasi rien.
Je te rejoins sur...
Le pré-show, je trouve, c'est bien. Le pré-show, vas-y, garde Skulush, franchement c'était bien.
Ouais, au niveau
même
du Sally, pré-show,
en vrai, même Sally, si on lui demande
Les deux ont été bien, après elles avaient des consignes qu'elles ont dû respecter, tu vois, et que moi j'estime qu'elles n'étaient pas forcément très bonnes, mais en tant que performance des deux, elles ont été bien, tu vois, il y avait de l'ambiance, il y avait des passe-passe entre les deux caméras et tout, et c'était très bien. Mais là où je te rejoins, c'est, ouais, à mon avis, je pense qu'il ne faudrait pas mettre tout simplement d'humoriste, en fait, et qu'il faudrait juste laisser la place à, comme on l'a dit avant, à des gens, par exemple, des présentateurs de plateaux qui savent, qui connaissent la culture très bien, qui connaissent le rap, et qui seraient, à mon avis, beaucoup plus à même d'animer une séance comme ça.
Et beaucoup plus expérimentés,
ouais, forcément,
en fait.
Exactement. Raphaël Dacroux, si tu passes par là, fonce.
Ouais, je pense que c'est pas un problème qu'il y ait de l'humour, mais si c'est des présentateurs, ils vont forcément faire quelques blagues subtiles, mais je pense que c'est de l'humour qui se prête mieux à cette cérémonie-là que quelque chose de très forcé, très one-man show.
Je suis tout à fait d'accord.
Et je pense que indirectement, si tu mets des gens qui, enfin, quelqu'un qui est connu, on va dire, de l'industrie, les gens vont avoir tendance à juste être plus à l'aise, plus amener plus forcément à l'humour que là des humoristes. On voit que c'est un peu forcé pour tirer le trait. Je pense qu'ils pourraient taper beaucoup plus de déconnes, on va dire, avec des gens qui se connaissent en fait déjà.
Je pense que le dernier point qu'on peut aborder avec les flammes, c'est que malgré tout, les sons les plus populaires et les plus mainstream, enfin les sons et les artistes, sont ceux qui priment malgré tout, même si on trouve quand même que la plupart des flammes sont méritées. Après, on n'est personne pour juger si une flamme est méritée ou pas.
Bien sûr.
Mais de notre point de vue, trouver qu'elles étaient pertinentes.
Et puis encore une fois, ils ne pourront jamais réussir à satisfaire tout le monde.
C'est ça. Mais par exemple, moi, j'étais un peu étonnée pour la flamme de la révélation féminine avec Merveille, parce que personnellement, je ne connaissais pas spécialement Merveille, parce que je n'ai pas TikTok. Donc, par contre, je connaissais Bianca Costa et Kenneth Prodigy, et j'étais un peu étonnée que ce ne soit pas Bianca Costa qui ait gagné, puisque c'est quand même quelqu'un qui s'impose de plus en plus, quand même, qui est quand même assez connu maintenant, Bianca Costa.
En deux ans, oui, et surtout que l'année dernière, elle était déjà nominée dans la même catégorie.
Parce que, par exemple, une merveille, c'est vraiment... révélation, oui, pour le coup, parce que, en fait, dans cette logique-là, c'est vrai que Bianca Costa, elle n'est plus trop révélée, vu que ça fait quand même quelques années qu'on la connaît. Mais c'est beaucoup le coup de... Elle a buzzé un moment, elle s'est fait connaître beaucoup d'un coup Merveille, donc elle a la flamme. Et dans cette même idée de mainstream, en vrai, on s'attendait à ce qu'il gagne plus de flamme. Et ça va aussi avec donc, la clôture. Petit Génie, en featuring avec Jungli, Jiménez, Alonso.
Oula, Abou Dhabi, tout le monde, là.
Alors, personnellement, j'aime bien Petit Génie, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'engouement autour de cette musique parce que déjà, ils sont genre 10 000 sur le projet. Je pense qu'il a quand même joué dans la popularité. Et finalement, je trouve Petit Génie, c'est limite plus connu en dehors des gens qui écoutent du rap que les gens qui écoutent vraiment du rap. Parce que moi, je l'ai découvert Petit Génie assez récemment. Même quand j'en parle à des potes, en fait, elles connaissent pas jusqu'à ce que je leur montre l'air et qu'elles voient ce que c'est. Mais c'est plus des gens qui écoutent pas de rap de base qui connaissent ça. Enfin, c'est pas un problème. Hein.
Non, c'est pas un problème. Surtout que, en vrai, les flammes, c'est pour célébrer le fait que voilà, le rap s'est écouté maintenant par tout le monde. Pas forcément pour les gros fans de rap. Petit Génie, ça mérite, je pense, au moins une flamme. Pas, voilà.
Surtout que là, c'était juste la flamme du morceau de musique africaine d'inspiration africaine, donc c'était l'édite de ouf.
Ouais.
Après, d'avoir mis en clôture, ça peut être débattable. Moi, perso, j'avais pas de problème avec ça et je trouvais que c'était pas une mauvaise idée parce que justement, il y a ce côté de la musique et les cultures populaires, c'est fait pour se réunir. Donc, mais je trouve que ça n'a pas eu l'effet que ça devait avoir. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment tant d'ambiance que ça pour Petit Génie, donc c'était un peu dommage.
Pour revenir sur Petit Génie, moi, il y a un truc que je trouvais un petit peu dommage, c'est que, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait, la personne qui est à l'origine de la mélo de Petit Génie n'a pas eu son...
Ouais, Lossa.
C'est ouais, Lossa, ouais. Lossa, ouais.
Justement, c'était un petit peu fait ghost par tout le monde et n'avait pas pu, justement, je crois, déjà avoir la flamme.
Jungli, il a tout pris. Hein.
Exactement.
Jungli, il a tout
et
pris pour
je crois qu'au final, ça l'a mis dans le clip, mais ça, il apparaît pendant 4 secondes. Enfin, bref. Et du coup, vis-à-vis de lui, je trouve que c'est dommage, tu vois, parce que c'est lui qui est, en fait, à l'origine de ce titre et que c'est dommage qu'il ne soit pas représenté. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la clôture, pas que ce soit le son super adapté pour finir justement cette cérémonie, tu vois. Par exemple, avec un Lafouine qui a été là, moi, je m'étais dit, s'ils mettent Lafouine en clôture, ça aurait pu être un truc de fou, tu vois, avec tout le monde justement qui se libère un peu et qui kiffe sur des sons que tout le monde connaît et qui sont super intergénérationnels, ça aurait pu être quelque chose de bien. Je dis pas que c'est une mauvaise chose que ça ait été fini.
Ouais, parce que je pense
sur
après
Petit Génie, tu vois, mais je pense que quitte à choisir, je pense qu'ils auraient pu choisir un autre medley.
Oui, après c'est sûr que je pense il y a tellement de gens qui font qu'écouter Petit Génie. Que je pense quand même qu'il y a une partie qui était contente d'avoir Petit Génie à la fin, en mode célébration, que le Petit Génie, ça a tout éclaté, il est top 1 depuis je sais pas combien de temps. Donc ça se discute en vrai.
Et je crois qu'on en a fini pour cette deuxième cérémonie des flammes. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore quelque chose à dire ou pas?
Ah non, là c'est bon, là je crois qu'on a bien parlé.
On a bien parlé.
Je crois qu'on a fait le tour là. Et allez, c'est parti pour la suite. C'est parti.
Transition en bref.
Alors, on va commencer pour le récap de ce troisième Studio 808. Alors, on a changé le format. Maintenant, on va plus faire semaine par semaine. parce que voilà, c'était trop long. Du coup, maintenant, ça va être un top 3 de chaque chroniqueur et on va commencer avec Oa. Oa, toi, quelles sont tes sorties un peu qui t'ont, on va dire, marqué, que t'as aimé ?
Donc moi, mon top 3, récap avril-mai, j'ai pas écouté grand-chose au niveau des sorties, mais ce qu'il en sort, il y a l'album « Été sans fin » d'Arma Jackson, où vous connaissez peut-être le feat avec Josman sur BBL.
Évidemment.
Ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé que la cover en 3D, là, comme ça, elle passait super bien. Ouais.
Aussi, il y a Folies qui a sorti deux sons, Illy Intro et No Sleeve, qui sont, seront probablement présents dans son nouveau projet. Baby, c'est une drogue, elle est addictive. Elle sait comme un single diamant, elle a le goût du succès. J'aime pas trop avoir et puis perdre. Et finalement, il y a l'extension de Scarlett, donc l'album de Doja Cat, Scarlett to Cloud, qui est assez sympa.
Il y a des sons de l'extension que t'as kiffé plus que d'autres ou pas ?
Ouais, je dirais Urge avec A$AP Rocky.
Ouais, lourd.
Ok, bah merci Oa. Donc je vais commencer par mon top 3. On va laisser finir Adrien qui est en train de préparer sa mixture de sodade. Alors, donc en premier, je vais vous parler du projet de Do qui s'appelle État d'âme. Donc vous savez que Do vient de la deuxième saison de Nouvelle École. J'ai trouvé ça bien, vraiment très bien. Ça m'a bien surpris. J'apprécie des sons comme État d'âme, bah justement le titre éponyme. Le projet dure 9 titres. Donc franchement, c'est à les découvrir sans hésiter. Yeah. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ma vision est troublée, je suis pas démarré. Beaucoup trop de fissures que je peux pas réparer, c'est la vie. En deuxième, je parlerai du Colors de Tiff, Nothing Personal. Une bonne surprise aussi de sa part. J'ai hâte de voir ce qu'il va proposer par la suite.
On attend le nouveau projet d'ailleurs de Tiff. Il l'a pas encore annoncé, mais je pense que ça va faire du bruit.
Et enfin, je parlerai de Théodore avec le titre Wayé. Voilà, le premier son, moi, ne m'avait pas forcément convaincu. Là, le deuxième, beaucoup plus. Je m'imagine bien en été avec ce son. Donc, j'ai hâte de voir comment son album qui va sortir justement le 24 mai. J'ai hâte de voir ce qu'il nous a proposé. Un album à ma piano. Ça change de d'habitude. Il y a vraiment un terrain à prendre. Donc, je suis honnêtement très curieux. Donc, j'ai hâte de voir. Je vous mets un extrait de Wayé tout de suite. Ils se prennent pour la kika.
Alors moi, dans mon top 3, je vais en premier vous parler évidemment de Sodade. Sodade, album auquel on avait parlé pendant le dernier épisode. Alors tout d'abord, moi, j'ai été satisfait de Sodade. Pourquoi j'ai été satisfait ? Je trouve tout d'abord que ça remplit super bien la case d'un album de Green, c'est-à-dire pas mal de sons courts dans lesquels on peut piocher ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Parmi les 18 titres, forcément, il y en a que j'ai trouvé un petit peu plus inférieurs à d'autres. Je pense par exemple à Phileas Fogg et à Ishtar qui avaient été les deux premiers extraits. Et ben encore aujourd'hui, je les trouve en dessous du reste de l'album et c'est quelque chose de bien parce que justement, quand il avait sorti que ces extraits-là, j'étais pas forcément hyper emballé. Et là, avec d'autres titres comme par exemple Inspecteur Gadget, que des mauvaises traces que je laisse, rien ne fait du mal, rien ne blesse. Comme Dashboard en featuring avec Isha, que je trouve super bon. Cet été j'étais à New York, on a croisé des mecs du Bronx. Comme le titre éponyme Sodade. Comme Ekenge Alfred Borden. Mais je fais plus de rêve. Dior c'est la même. Soit quand t'as des règles, j'ai toujours été méfiant. Il y a beaucoup de matières que j'ai trouvées super bonnes et franchement, ça m'a fait plaisir. Si je devais donner une autre critique de l'album, je trouve qu'on sent justement que c'est du green, mais on sent en même temps que c'est du green dans un nouvel album. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette recette, comme on l'a dit, par exemple, de son cours. Il y a ce truc de mumble rap où Green va marmonner des choses qu'on comprend pas tout le temps, mais qui va pas rendre du tout la chose désagréable à l'écoute. Et au contraire, à des moments, ça rend le truc super bien. Je trouve que à la fois au niveau des prods et au niveau du mix, il y a une évolution de cet univers de Green. Et personnellement, j'ai beaucoup kiffé. Si je pouvais donner peut-être un point négatif, c'est le feat avec Josman et Tiakola que j'ai trouvé bon. Mais sur le papier, quand je me dis Green, Josman et Tiako sur un son, j'attendais peut-être plus que ce son.
Et surtout, il est un peu redondant quand même.
Je trouve que le refrain 100, 200, machin.
Ça commence à faire long quand même.
Ouais, je suis d'accord que ça commence à faire long. Mais j'ai trouvé ça dommage parce que tu vois, typiquement, la prod de Bank, je la trouve super.
Il y avait un beau potentiel qui n'a pas été exploité à 100%. Quoi.
Et je trouve d'ailleurs que Josman, qui est très très fort en feat, là, je l'ai trouvé un petit peu en dessous d'habituellement. En deuxième, je voudrais parler du nouveau projet de TEDxMax, artiste lyonnais qu'on a déjà présenté pour la première émission. Il a sorti son nouveau projet qui s'appelle Ardeur Contemporain. Encore une fois, c'est du TEDx, donc le projet contient beaucoup de bars, c'est très bien rappé comme d'habitude. Il a fait appel à beaucoup de gens qui n'ont pas forcément une grande visibilité dans la sphère rap. Je pense par exemple à Double Zulu, à Fresh Avelli qui ont été en feat et qui sont des super feats. Personnellement, les feats, c'est pas non plus les sons qui m'ont le plus plu. J'ai beaucoup kiffé le son Ice Jacking qui est l'intro ou encore C'est pour ça avec un super refrain. Je vous mets un extrait tout de suite.
Je vais pas leur faire la morale mais leur faire mal. Je suis pas leur papa mais leur bête noire. J'évite ceux qui parlent et qui béton bêtement. J'ai la peau noire, pas besoin de sang sur les vêtements. Je dois faire un yébi ou yébi, c'est comme ça ici. Ils cherchent d'abord la gloire, c'est pour ça ici. Rien de neuf, c'est pour ça ici. Ils cherchent leur intérêt, c'est pour ça.
Dans le projet, il y a des producteurs super talentueux qui ont été présent. Je pense par exemple à Hologram Law qui, si vous connaissez pas, est le fondateur de Don Dada avec Alpha One. On retrouve aussi le duo de beatmaker Just Music Beats avec lesquels TEDx avait déjà collaboré avant, notamment sur un projet entier, Palm Brick. Enfin bref, en tout cas, si vous voulez écouter un projet de rap qui passe bien, auquel la personne sait rapper et le fait bien, je vous conseille directement d'aller écouter ce projet-là. Et en dernier, pour mon top 3, j'aimerais parler du dernier projet de Gapman, Prochaine Chèvre 2. Alors Gapman, perso j'adore cet artiste, c'est un mec qui vient de Lille si je me trompe pas. Il avait déjà sorti Prochaine Chèvre 1 l'année dernière, que j'avais trouvé très bon. Mais là où j'avais vraiment été séduit par Gapman, c'était quand il avait sorti le titre Crew, en collaboration avec Banks Beat. Donc Banks Beat, producteur à succès, producteur connu de beaucoup de gens. Bref, quand ils ont sorti Crew, je me suis vraiment dit, ok, ce mec est super chaud, c'est pour ça que j'attendais beaucoup ce projet. Et honnêtement, j'ai pas été déçu. Il avait sorti un premier extrait qui s'appelle Bab, avec une vibe un petit peu estivale, que j'avais plutôt apprécié, mais j'étais comme qui dirait un petit peu resté sur ma faim. Mais quand c'est sorti, il y a vraiment des sons du projet que je me suis vraiment beaucoup pris. Je pense notamment à Perkis Calling. Je pense aussi à Tout.
All day, c'est toujours le même deal. C'est soit on se calme ou soit on met la dope dans un big bag. Il a fait des études donc il est content de son payday. Il se fait vider son compte dans la day. C'est une big...
Ou encore à l'introduction, Mage. Donc ce projet de Gapman, rapidement, c'est un projet très trap, avec des instrumentales justement qui vont être très appuyées justement sur la trap. Le mec sait ce qu'il fait, il y a un côté très américain dans la façon de poser, dans les mots qu'il emploie. Donc si vous kiffez de la trap américaine, je vous conseille peut-être d'aller écouter justement Gapman, qui lui fait ça avec un côté français, mais avec aussi un côté très américanisé. Je pense que ça devrait vous plaire. Moi en tout cas, ça l'a été.
Ok, merci Adrien.
Et voilà, on arrive à la dernière émission de la saison du Studio 808. Merci Wa, merci Adrien.
Yes sir.
Merci.
Merci à vous de nous avoir écoutés, et peut-être à la saison prochaine.